Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Imaginez des intérieurs blêmes où des portes successives laissent parfois apparaître une silhouette de femme vêtue de noir qui glisse sur des parquets lisses pesant à peine sur le sol. Cette présence ou ces présences discrètes et rêveuses ou laborieuses sont repoussées dans les angles des pièces par des tables immenses et vides. Des fenêtres, souvent invisibles, laissent deviner par les projections de lumière que leur embrasure reporte sur le sol qu'un cosmos, un autre monde, existe hors de ces intérieurs confinés et dans ces raies de soleil s'anime, mais à peine, un peu de poussière. Hammershøi, Wilhelm Hammershøi peint au Danemark à la fin du IIe siècle son refus du monde extérieur, son attention portée sur la géométrie obsessionnelle des lignes d'une maison et semble satisfaite par la description des rapports angulaires que forment une encoignure et un volet, une porte et une commode, un tableau et un sofa. Parfois aussi, un paysage. Mais là, les bords de la vision s'estompent, laissant toute la place au vide du ciel et de l'horizon, comme s'il ne fallait que passer sur la terre en l'effleurant. De ces œuvres, presque monochromes, de cette atonie, s'exhale un charme mélancolique, un univers songeur, symboliste et distancié, qui font de celui qui est sans doute le plus grand artiste danois de sa génération un sujet fascinant. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui les deux commissaires, et tout d'abord Jean-Loup Champion. Bonjour Jean-Loup, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, je vous remercie.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes éditeur, historien d'art, commissaire d'exposition. Vous dirigez deux collections, je crois, chez Gallimard, oui. N'est-ce pas ? Qui sont ?
Qui sont Arrêt artiste et témoin de l'art.
Et vous allez publier le livre d'un de nos amis, Georges Lieberman.
Le prochain livre, dans la semaine prochaine, de Georges Lieberman, Ninfa Dolorosa.
Alors, qu'est-ce qu'il aborde cette fois-ci ?
Il aborde le thème de la Pietà à travers la photo contemporaine et aussi, comme d'habitude, il parle de toute l'histoire de l'art en un seul livre. Mais il commence à partir d'une célèbre photo qu'on appelle la Pietà du Kosovo, qui est une, pendant la guerre du Kosovo, cette femme qui tient son fils mort sur ses genoux.
En fait, c'est la figure de Pietà comme figure éternelle.
Absolument.
Un petit peu comme il avait travaillé sur l'Atlas, finalement, mais là, cette fois-ci, sur ce sujet incroyablement douloureux. Et Pierre Curie, nous nous connaissons, puisque nous avions parlé de Caravage ensemble.
Oui, nous nous connaissons.
Bravo pour le succès de l'exposition. Hein. Vous aviez
beaucoup,
d'abord obtenu 9 Caravages, c'est bien
oui,
ça ?
Oui. Hein, selon les spécialistes, 8, 9, 10. Vous savez,
oui, il y a toujours
les attributions.
Enfin, c'est quand même un tour de force, et oui, ça a été un grand succès.
Oui, ça a été un grand succès, qui nous a même surpris, en fait. On s'attendait à ce que l'exposition marche bien, mais elle a vraiment eu un succès considérable, malgré les manifestations qui ont aussi freiné un peu l'affluence. Mais enfin, ça a vraiment
ce petit
vraiment
côté mauvais garçon n'aurait pas déplu à Caravage,
oui, peut-être,
je pense.
Peut-être.
Voilà. Et dites-moi, vous préparez, qu'est-ce qui se prépare en ce moment au musée Jacques-Marandré, puisque l'exposition dont nous parlons donc est au musée Jacques-Marandré, elle commence dans quelques heures.
Dans quelques jours, en fait.
Ouais.
Nous préparons également un turner. Dans la tradition du musée, nous essayons d'alterner des monographies, donc nous aurons un Turner, nous aurons un Botticelli.
Ça reste dans l'esprit de la collection
voilà,
du musée.
Dans l'esprit
hein.
de la collection du musée. Mais nous alternons aussi avec des collections. Et la prochaine exposition après Hammershøi, c'est une grande collection américano-chilienne de tableaux italiens qui vont du XIVe siècle au XVIIe siècle. Donc une très belle sélection avec des grands chefs-d'œuvre très rarement vus en Europe.
Alors Jean-Loup Champion, Hammershøi finalement est aimé en France. On le reçoit souvent. Depuis 1889, on le voit régulièrement.
Pas si régulièrement que ça, parce qu'en fait, il n'a été reconnu vraiment qu'en 1997, au moment de l'exposition du musée d'Orsay.
Qui était absolument merveilleuse et qui, je dois dire, a surpris tout le monde parce que on avait oublié ce nom qui, quand même, s'était illustré au moins deux fois.
Oui, il avait,
fin 19e, début 20e.
Il avait présenté des tableaux, deux expositions universelles. C'était 89 et 1900.
Oui. Il me semble qu'il y a eu une exposition dans les années 30, vers 1928, par là, non? Ça vous rappelle
avec
quelque chose?
Avec des tableaux d'Hammershøi?
Je pense qu'il y avait un petit groupe de tableaux d'Hammershøi à l'intérieur d'une exposition sur le Nord, à cette époque-là.
Alors, il y en a une beaucoup plus récente, au Petit Palais, en 1987. Ouais, elle s'appelait Lumière du Nord.
Oui,
c'était un grand panorama de la peinture scandinave. Et il y avait une salle d'Hammershøi.
C'était formidable, parce qu'en fait, on connaît assez mal l'art du Nord. Je ne sais pas pourquoi il y a... Le monde scandinave vient souvent dans l'Europe plus au sud, et le contraire est moins vrai.
Oui, et pourtant, beaucoup de peintres scandinaves, Jean-Loup me démentira,
ils sont venus à Paris. De toute façon, Paris était vraiment la capitale de l'Europe dans les 20 dernières années du XXe siècle.
Ils sont venus et ils ont même étudié à Paris. Oui, il y en a beaucoup qui sont
Tolof,
venus.
Tolof, Heldenfeld.
Oui, ils ont tous étudié avec les maîtres français. Même Eckersberg, qui est le grand peintre de l'époque précédente, qui est ce qu'on appelle l'âge d'or de la peinture danoise, a étudié dans l'atelier de David.
Et de Bonnat ou pas?
Bonnat, c'est des gens plus tard, comme Croyer.
C'est le professeur des Beaux-Arts des années 70, en fait.
Oui. Bonnat a eu beaucoup d'élèves danois.
Quand on dit danois, on pense aussi à la Scandinavie de façon plus large, mais en fait, cet Hammershøi dont nous parlons, ce grand peintre, qui naît vers...
1864.
Donc on est à peu près au moment des grands drames politiques du Danemark.
C'est une date très très importante parce qu'il naît exactement l'année où le Danemark perd les duchés du Schleswig et du Holstein. Donc le Danemark est très très diminué, d'autant plus que 50 ans avant, en 1814,
ils ont perdu
la Norvège.
À la Norvège, ils ont perdu la Norvège, évidemment.
Donc ils sont devenus tout d'un coup un tout petit pays. Et je pense que ça a joué beaucoup sur les rapports des artistes, parce que tous les théoriciens leur ont dit il faut se recentrer sur le Danemark. C'est devenu presque nationaliste, alors, petit pays entouré d'eau, etc.
Dans le catalogue, qui est très bien fait et très bien écrit, évidemment, puisque vous en êtes les auteurs, donc c'est une évidence, mais vous n'êtes pas les seuls auteurs d'ailleurs. Hein.
Il y a deux autres auteurs, en effet.
Eh bien, il y a à un moment donné un proverbe qui est rappelé.
C'est moi qui l'ai...
Vous qui l'avez écrit?
Oui, et qui parle des signes.
Alors ça, c'est magnifique, parce que c'est la définition d'Andersen.
C'est la définition d'Andersen, en disant que c'est le pays des signes. Il y a des grands signes qui sont les grands auteurs, peintres, etc., du Danemark.
Alors c'est des signes avec un CY,
Ce sont les oiseaux.
Bien entendu, les oiseaux. Et puis il y a cette habitude, je pense, de se dire que quand ça ne va pas à l'extérieur, il faut réinvestir l'intérieur. Et donc c'est un petit peu ce que fait, je pense, Hammershøi. Il me semble qu'il travaille à l'intérieur d'un monde qui est surtout l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre?
Oui, certes. La simple contemplation de ses peintures montre un artiste extrêmement, je dirais, introverti et presque monomaniaque aussi. Il a une logique du début de sa carrière jusqu'à la fin qui est d'une grande homogénéité, en fait. Hein. Et on le sent très imperméable aux influences, alors qu'il a beaucoup voyagé, qu'il était très cultivé, qu'il était...
Sa carrière commence à 8 ans, hein, c'est quand même une particularité.
Oui.
Sous l'influence de sa mère, qui est une directrice de sa carrière incroyable.
Voilà. Et en tout cas, bon, il suit un cursus tout à fait classique, une formation donc à l'Académie des Arts à Copenhague. Mais on sent vraiment un artiste extrêmement cohérent, en fait, dans son parcours artistique.
Il sait tout de suite sa direction.
Semble-t-il, oui. Enfin, en tout cas, les œuvres que nous montrons sont vraiment très, très homogènes dans leur inspiration et dans leur évolution.
Alors, j'ai une question à vous poser sur cette question, parce que vous dites que c'est une œuvre très homogène et, au fond, imperméable aux influences. J'ai un doute là-dessus.
Je vais moduler.
Vous modulez. Alors, parce que j'ai plutôt l'impression qu'il a choisi ses influences plutôt que d'être imperméable aux influences, parce qu'au fond, dans le climat artistique de l'époque, il choisit d'être assez étanche à tout ce qui est la peinture nouvelle autour de l'impressionnisme qui va naître à peu près à ce moment-là. Mais dans l'univers symboliste, dans l'univers de Knopf, dans l'univers de Burne-Jones, dans l'univers de Vuillard, il est dans sa famille.
Oui, je pense qu'il n'y a, il y a aucun rapport, malgré tout.
Ah ben, alors, expliquez-moi.
Je pense qu'il n'y a aucun rapport. Comme le disait Pierre, de toute façon, on le voit dès les tableaux du début, quand il a 18 ans, il choisit quelque chose et il n'en change jamais. Mais pour ce que vous disiez à propos des intérieurs, il n'est pas le seul. En fait, tous les peintres danois peignent des intérieurs avec des femmes de dos, ces univers silencieux. On parle d'Hammershøi, mais tout le monde le fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis exprès des tableaux de son cercle, c'est-à-dire son beau-frère, Ilstad, son meilleur ami, Olze, et son petit frère, pour montrer qu'il peignait exactement la même chose. Et pour nous, aujourd'hui, les tableaux sont très très différents.
Oui, c'est exactement la même chose, parce que ce sont les mêmes sujets. Un regard rapide se dit, ben voilà, des jeunes femmes songeuses dans un intérieur avec un effet de lumière, mais c'est pas du tout pareil.
Absolument, mais ce qui s'est passé en 1900, quand il montrait 10 tableaux à l'exposition universelle, et son beau-frère, Ilstad, en montrait 2, ben l'État français a acheté un tableau d'Ilstad et pas un tableau d'Hammershøi.
Vous voulez dire que l'État se trompe toujours ?
Non, tout simplement, pour eux, c'était la même chose. C'était des intérieurs charmants. Ils ont choisi sans doute les intérieurs les plus...
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est pas au fond, c'est ça, vous nous dites, c'est à peu près la même chose. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle, vous en parlerez, j'espère, Pierre, tout à l'heure, mais des personnages dans un intérieur, des sortes de scènes de genre où on voit des personnages parfois rares ou des scènes dans lesquelles une porte ouverte donne accès à autre chose. C'est un petit peu toujours la même chose. Mais lui, c'est particulier. En quoi est-ce que c'est différent alors que c'est la même construction?
Oui. C'est très très simple. C'est-à-dire que pour moi, lui, d'abord, travaille beaucoup avec la géométrie. Et en plus, il projette son univers intérieur, c'est-à-dire qu'il enlève les choses qu'il voit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il avait un appartement aussi plein de choses que les appartements des autres, on a des photos. Mais sur chaque tableau, on voit qu'il enlève les tableaux du mur, il place un seul accessoire. Et il fait la même chose, qui est très étonnant, il fait la même chose pour les paysages. On sait qu'il a peint des paysages extrêmement courus autour de Copenhague, où il y avait à la fois des gens, des animaux, comme le faisaient ses prédécesseurs, et lui, il enlève.
Il y a une scène qui est racontée dans le catalogue, d'ailleurs qui est formidable, où il peint avec son frère, il peigne un dolmen entouré de trois arbres, et son frère
écrit donc à leur sœur en disant « Moi, je prends les choses intéressantes, et Willem enlève toutes les choses pittoresques. »
Voilà.
Et je crois que c'est le secret de son art, c'est-à-dire il a une sorte de grille, il m'a fait souvent penser, parce que vous vous rappelez, quand Mondrian a commencé, il peignait des moulins et des arbres, beaucoup, beaucoup, il a fait ça, il y en a des centaines et des centaines. Et un jour, il a commencé à diviser les arbres. Et oui. Petit à petit, on a des tableaux qui montrent bien qu'il passe d'un arbre à l'abstraction. Eh bien, c'est presque le même processus chez Hammershøi, à mon avis.
Il ne reste plus que les lignes des branches, et à l'intérieur, entre le lacis des branches, il peint ce qui est entre.
Parce qu'il ne veut aucune psychologie et aucune relation entre les êtres.
Donc, il y a une fuite du sujet, quelque part. Oui. Autant ses proches, justement, semblent continuer cette tradition du motif, du sujet, autant lui, on dirait vraiment qu'il recherche à peindre rien. Enfin, à peindre le vide.
L'essence.
Et l'essence. C'est vraiment un artiste qui procède, comme tu l'as dit, par soustraction. Alors, on est presque à l'abstraction.
Oui.
On n'y rentre pas.
Pierre Curie, dans le texte que vous écrivez dans le catalogue, vous évoquez quelqu'un à qui on ne peut pas ne pas penser, en effet, qui est San Redam.
Oui.
Et donc, cet extraordinaire artiste hollandais du XVIIe siècle qui peint les intérieurs d'églises, rythmés et modifiés, d'ailleurs, vous précisez dans le catalogue. Voilà. Expliquez-nous.
Alors, oui, San Redam peint des églises, des extérieurs plus rares, mais souvent des intérieurs. Et il les travaillait, bien sûr, comme ses contemporains, avec des chambres obscures, des divers instruments d'optique. Mais on sait, parce qu'on l'a vérifié avec la photographie et des instruments plus modernes, qu'il trichait. Trichait sur la perspective, sur les formes des églises, sur leurs proportions. Et c'est donc qu'il, comme artiste, il n'est pas un œil photographique. Il intervient vraiment dans son travail. Et par ailleurs, on sait par les textes contemporains que ces tableaux sont en quelque sorte des paysages spirituels, motifs de méditation religieuse. On est dans un univers protestant très très austère qui fuit un peu l'image. Hein. C'est une peinture un peu aniconique. Et là aussi, on est dans cette recherche d'une expression du divin, si l'on veut, par la lumière et par le vide, par cette représentation de l'espace creux, quoi. Alors, bien que la démarche d'Amershoy ne soit pas religieuse, je ne crois pas, on a quand même cette même recherche abstractive, en fait, de la peinture.
Vous ne croyez pas, on en est sûr que c'est
je pas
luthérien.
Je ne sais pas,
luthérien.
Là, c'est Jean-Loup qui est...
on a tous des gros problèmes avec Amershoy, parce qu'il ne disait rien, il n'écrivait rien, donc on ne sait rien, en fait.
Donc c'est une bonne raison pour en parler pendant une heure. Hein.
Très peu de choses. Il était connu, d'ailleurs, réputé pour être taciturne. Il voyait très très peu de gens. Et c'est pour ça qu'il n'aimait, en fait, portraiturer que sa famille.
Alors je vous propose d'écouter, puisque vous dites cela, l'extrait d'un entretien d'Amershoy de 1907. C'est très bref, hein, effectivement. Et au journal Closen de Copenhague, sur l'importance des structures linéaires dans son travail, ce qui nous permet de rejoindre San Redam, et ce que vous disiez sur l'importance de la géométrie.
Ce qui m'incite à choisir un motif, ce sont les lignes. Ce que je me plais à appeler le fond architectural d'un tableau. Et puis il y a la lumière, bien sûr. Elle est très importante aussi, c'est évident. Mais je crois que ce sont les lignes qui comptent le plus pour moi. La couleur a aussi son importance. Je ne suis pas indifférent aux couleurs du motif, car je fais tout pour qu'il soit harmonieux. Mais quand je choisis un motif, je pense avant tout aux lignes. Wilhelm Amershoy, 1907.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons de l'immense artiste qui travaille à la cheville du 19e et du 20e siècle, Wilhelm Amershoy, une exposition qui a lieu au musée Jacquemart-André et ceci du 14 mars au 22 juillet. Et continuons à parler donc avec les deux commissaires, Jean-Loup Champion et Pierre Curie. Jean-Loup Champion, on vient de parler de la spiritualité d'Amershoy, on s'interrogeait pour savoir si le luthérianisme avait une influence sur son travail, s'il était agnostique, religieux ou pas du tout, et vous disiez qu'on ne sait pas grand-chose puisqu'il parle peu, effectivement, même cet extrait d'interview qui est rare, c'est quelques mots.
Alors on sait quand même quelque chose parce que, comme vous avez vu, tous ces personnages en général sont habillés de noir.
Oui.
Alors on peut imaginer qu'en effet c'est une chose entièrement danoise, parce que c'est un pays en effet luthérien. Et le grand tableau dont on n'a pas encore parlé, qui est son plus grand tableau, que ce soit pour la taille que pour son importance, qui s'appelle « Cinq portraits ».
Qui est à l'entrée de l'exposition.
Qui est à l'entrée de l'exposition, représente cinq de ses amis et parents qui sont autour d'une table. Et ils sont en noir, c'est une réunion amicale et on a l'impression que c'est une réunion après un enterrement.
Et oui.
Parce qu'il y a un côté très très austère et qui en même temps m'a fait penser, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 40 ans maintenant, il y avait ce film danois de Gabriel Axel qui s'appelait
Le Festin de Babette.
Le Festin de Babette. Et j'ai reproduit une image du festin dans le livre parce que c'est exactement la même composition. C'est une table avec tous les personnages en noir autour et deux bougies. C'est exactement comme dans le film. Et si on veut rappeler l'histoire du film, c'est une des plus grandes cuisinières parisiennes qui fuit la commune et qui part en exil dans un tout petit village du Danemark. Et elle fait un héritage, elle le dépense entièrement en faisant venir les plus belles victuailles de Paris pour offrir un festin à des gens qui évidemment n'ont rien vu qu'un morceau de pain de seigle dans leur vie. Donc c'est un film tout à fait extraordinaire.
Elle leur fait découvrir les cailles en sarcophage.
Pierre Curie, est-ce que vous pouvez nous décrire ce tableau qu'on le voit bien? Est-ce que vous pouvez c'est quand même un des chefs-d'œuvre absolus de l'artiste hein, qu'il voulait donner au Musée National.
C'est en effet un grand grand chef-d'œuvre très très étonnant qui peut avoir quelques points de contact contact aussi avec certains tableaux. Moi, j'ai pensé à la bande noire, par exemple, à Côté, qui a peint des tableaux extrêmement, presque funéraires, comme ça, dans cet esprit très, très symbolique. Ce qui m'a frappé, moi, dans ce grand tableau, où en effet, les personnages sont donc assis autour d'une table, disposés presque comme les apôtres autour de la scène, hein. Sauf que là, ils sont que cinq, évidemment.
Et on sait qu'il s'est beaucoup inspiré d'un tableau de la scène des Kersberg, dans une église de...
Ce qui est frappant, c'est la lumière dans ce tableau, parce que donc l'éclairage est un éclairage à la bougie.
Il y a deux bougies verticales posées sur la table.
Il y a deux bougies, presque comme sur un autel aussi, un autel d'église. Or, cet éclairage est ultra froid. On sait tous que les chandelles donnent une lumière très chaude habituellement. Il y a qu'à penser à Georges de la Tour ou à n'importe quel caravagesque. Et lui a transformé cette lumière des bougies en un bain de lumière froide, extraordinairement glaciale pratiquement, qui confère à l'ambiance de ce tableau quelque chose de vraiment impressionnant. Et par ailleurs, il y a également un autre élément important, c'est l'échelle des personnages. Ils sont tous plus grands que nature. Ils en imposent en quelque sorte. Donc il y a une volonté de monumentalité dans cette scène qui peut faire penser aussi à l'atelier des Batignolles de Fontaine-la-Tour. Enfin, c'est une espèce de démarque de ces ateliers d'artistes. C'est tableau d'artiste, une vieille tradition depuis le 16e, 17e, mais évidemment, Hammerscholl le transforme complètement à sa manière et dans sa personnalité qui est très... Alors,
ce sont ses amis, ils sont autour de cette table catafalque, que vous le décriviez très bien, Jean-Loup. Il y en a un qui pourtant a une attitude assez étrange, il a les pieds sur un tabouret alors que tout est grave, et puis il y en a un qui est tellement décontracté.
Alors, ce tableau représente son cercle le plus proche. Parce que vous avez le...
Il n'y avait pas beaucoup d'autres cercles, hein, parce qu'il était assez, de toute façon, réservé.
Mais il y a le premier est un architecte célèbre qui s'appelle Biddensball, qui est celui qui est complètement à gauche. Ensuite, vous avez Karl Madsen, qui était un peintre, mais un historien d'art qui a beaucoup compté, parce qu'il a beaucoup poussé la carrière d'Hammerscholl. Et à la fin de sa propre carrière, il est devenu directeur du Musée National. Ensuite, à côté, vous avez Willemsen, pour lequel il y a eu une grande exposition à Orsay, il y a une 20 ans.
Oui, extraordinaire artiste, pas du tout dans le style d'Hammerscholl, beaucoup plus excentrique.
Un symboliste excentrique,
des couleurs vert et rouge, d'une puissance, un peu comme le valoton fou de quelques moments. Hein, voilà.
Et puis à côté, vous avez Holze, qui est donc un de ses meilleurs amis, qui lui peint uniquement des intérieurs, et dont nous avons deux tableaux dans l'exposition.
Très proche de L2, en fait.
De Hillstead.
Très proche de Hillstead.
Hillstead et son beau-frère. Oui, absolument. Ils ont.
Dans le style aussi.
Ils avaient la même clientèle. Ils se sont tous connus quand ils étaient adolescents, quand ils ont commencé leurs études d'art. Ils étaient ensemble à l'académie, ensemble dans l'école de Croyer. Ils se sont suivis et ils ont porté son cercueil à son enterrement. Donc, ils se sont quasiment jamais quittés. Et devant la table, vous avez son jeune frère, Sven. Hammerscholl,
artiste
qui lui
aussi.
était céramiste. Et peintre aussi. Et il y a une chose extraordinaire dans ce tableau, quand on est en face devant, comme on était avec Pierre ce matin, c'est que vous ne voyez que deux immenses pieds qui sont sur le côté.
C'est ça.
Et dans toutes les esquisses de ce tableau, il y avait un tabouret avec un vase et une bougie.
Mais au dernier moment, on voit des plantes de pieds comme ça.
Au dernier moment, il a mis ça et ça fait un scandale.
C'est Caravage, oui. Dans la Madone de Lorraine, la Madone des Pèlerins, oui.
Et de la même façon, ce tableau a fait un énorme scandale quand il a été montré. À cause de ses pieds.
Mais qui était là pour remplacer une bougie qui devait s'y trouver. Non, il n'y a pas une histoire comme ça.
Il a changé. Au début, il voulait mettre un vase avec une bougie. On connaît les esquisses. Et puis un jour, comme font tous les grands peintres, tout d'un coup, il change la composition pour en faire quelque chose de plus radical. Et ce qui est extraordinaire chez Hammerscholl, c'est que, comme Pierre le disait, il s'appuie toujours sur la tradition. C'est-à-dire qu'il ne détruit pas la tradition, il la radicalise.
C'est un artiste, si j'ai bien compris, c'est un artiste donc, qui construit son intérieur. C'est ça qui m'a assez frappé en lisant le catalogue, c'est que, et on le sent en voyant les tableaux, les uns après les autres, on a l'impression que comme un cinéaste qui construirait un décor, il a construit son intérieur d'une façon presque artificielle, où il l'a... Vous disiez tout à l'heure qu'il déplaçait les meubles, c'est vraiment...
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression...
C'est du cinéma d'art et d'essai,
qu'il a posé une grille à ce qu'il voyait. C'est-à-dire que, oui, exactement comme le cinéma, et je pense qu'il s'est servi quand même, c'est le moment de la photo. Et il s'intéressait beaucoup à la photo. On a deux ou trois documents seulement, en particulier pour l'intérieur de la cour intérieure de l'immeuble dans lequel il habitait.
Qui est un très très beau tableau, je veux dire, juste beau. Un angle de l'immeuble.
Et on a une photo où on voit sa femme à la même fenêtre et lui, il est dans la cour. Mais on a l'impression qu'il est en face de quelque chose et qu'il enlève les choses à chaque fois.
Il enlève les choses et puis on a l'impression que. Vous connaissez cette expression de la vie silencieuse, évidemment, donc qui est un monde d'objets, et on a l'impression qu'il fait avec les humains ce que l'on fait avec des objets. C'est-à-dire qu'il les place ici, derrière une table, ici, à côté d'un poêle, etc. Ouais. Et que les vies sont silencieuses, comme si les humains étaient des objets.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous verrez, vous avez vu dans le catalogue, c'est que ces amis dont on montre les tableaux ont exactement les mêmes sujets. Et en plus, ils prennent eux aussi leurs femmes... qu'ils mettent de dos dans l'intérieur. Donc c'est exactement la même chose. Et quand vous les voyez ensemble, c'est totalement différent.
Parce que la recherche d'Hammershøi, c'est les fondements de la peinture occidentale. C'est-à-dire comment représenter l'espace par la lumière. Et lui, il a vraiment dépouillé, écorché cette thématique jusqu'à, en effet, représenter seulement des intérieurs sans rien. Mais quand il y place des figures, souvent c'est pour... donner une échelle en quelque sorte, placer quelque chose dans l'espace pour qu'on perçoive cette profondeur.
Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a aucune psychologie dans son travail. Pourtant, j'ai l'impression, c'est vous Jean-Loup qui disiez cela, hein, donc j'ai l'impression que quand il place une femme dans un coin derrière une table, c'est un point de vue légèrement psychologique. Quand on voit les trois femmes ensemble avec sa femme au milieu de sa belle-sœur et de sa sœur, il y a une lecture psychologique, il y a un visage complètement renfrogné, fermé.
Sans exagérer, on peut dire que c'est notre lecture post-freudienne. Je crois que lui ne veut pas qu'il se passe quoi que ce soit. Et ces trois femmes, c'est donc sa belle-sœur, sa femme et sa sœur. Et vous avez remarqué, elles se touchent par les genoux.
Oui.
Mais sinon, il ne se passe rien. C'est-à-dire, elles sont chacune dans un intérieur qui ne communique absolument pas. Et dans les cinq portraits, les gens ne communiquent pas entre eux non plus.
C'est merveilleux, mais ça ne devait pas être drôle. Par moment, on se dit que...
Il avait été très influencé par le portrait que Whistler avait fait de sa mère. C'est ce portrait qui est au musée d'Orsay aujourd'hui.
Extraordinaire.
Et dont il a fait une espèce de calque. En fait, lui-même a représenté sa mère dans la même pose.
Quand il était très jeune.
Voilà, oui. Quand il avait dans la même gamme de gris.
Whistler, il y a aussi une tentation monochrome, un petit peu, hein, quand on retrouve chez Hammershøi. Je crois qu'Hammershøi admirait beaucoup Whistler, qui est son aîné d'une vingtaine d'années.
Oui, c'est le seul peintre dont il a dit publiquement qu'il l'aimait et qu'il voulait le rencontrer. Donc il est allé à Londres pour essayer de le rencontrer, puisque Whistler habitait à Londres à ce moment-là, et ça ne s'est jamais fait.
Oui, mais c'est absurde, parce qu'il avait été aussi à Paris, invité par peut-être Durand Ruel et Théodore Duret, je ne sais pas, et on l'a invité à dîner avec Monet et Whistler, et il n'y a pas été.
Je pense que ça, c'est une légende.
Ah,
parce que s'il y avait Whistler, il y serait vraiment allé. Il y tenait beaucoup.
Alors, cet artiste qui nous donne la sensation de vivre dans un monde clos...
Il a voyagé toute sa vie.
Circule partout.
Tout le temps.
Une curiosité
énorme.
Il part
pour 2 ans. Il part pas pour 3 jours.
Ouais.
Donc, il est allé longtemps en Italie, longtemps en France, 2 fois. Et surtout en Angleterre, où il avait un grand ami... qu'il avait connu à Copenhague, qui s'appelait Leonard Borwick, qui était le plus grand pianiste virtuose de l'époque. Et donc, c'est Borwick qui l'a introduit dans les milieux artistiques, enfin, en tout cas, chez les clients anglais. Et Borwick avait trois tableaux d'Hammershøi qui, miraculeusement, sont dans cette exposition. Deux qui viennent de la Tate, et le troisième... d'une extraordinaire collection faite par un ancien ambassadeur américain à Copenhague, qui s'appelle John Lobb, et qui a eu la bonté de nous prêter 11 tableaux, ce qui est une chose extraordinaire.
Ah, c'est formidable. Dis-toi, cet artiste voyageur reçoit une lettre de sa mère qui lui dit « fais attention à ne pas te laisser contaminer. C'est quand même dingue comme façon de parler à son fils. On n'a pas l'impression qu'il parle de peinture. Hein.
Parce qu'elle le connaissait très bien. Mais lui, en plus de ça, on n'a jamais su ce qu'il avait. On pense qu'il a tout vu. Il était parfaitement cultivé. J'ai retrouvé le catalogue de sa bibliothèque. Il l'a fait extraordinaire. Donc il était parfaitement au courant. Et le Whistler dont on parle, et il l'avait dans la Gazette des Beaux-Arts, puisqu'il n'a jamais vu le tableau.
C'est une idée du monde Pierre. Protestant, ça, d'être contaminé par le Sud. Pensez aux ambassadeurs de Henry James.
Oui, quand... voilà. Mais tout. Alors, donc, il y a cette mère très présente. Hein. On a l'impression quand même que le rapport à la mère, c'est une. Pardon, cette...
J'ai
remarqué que vous aviez critiqué le caractère freudien d'une esquisse d'interprétation tout à l'heure, donc je recule immédiatement, je dis mon Dieu, qu'est-ce que je dis, mais un petit peu comme Vuillard, un petit peu comme Knopf, il y a un rapport à la mère qui est quand même très complexe.
Mais Vuillard, j'en parle justement, parce qu'il le traite différemment, mais Vuillard, comme lui, a vécu avec sa mère et sa sœur, très longtemps, Vuillard.
Jusqu'en 1928, hein, ouais. Pour Vuillard, c'est quand même incroyable.
Et,
hein.
Et je fais une comparaison avec un des tableaux, parce que l'époque Naby de Vuillard, les tableaux d'intérieur avec sa mère et sa sœur sont largement aussi étouffants que ceux de... Mais simplement...
Et pourtant, tout à l'heure, vous me dites, ça n'a rien à voir.
Oui, ça n'a rien à voir.
Vous avez dit ça tout à l'heure, alors je suis obligé de me protester tout d'un coup.
C'est-à-dire, il n'y a pas de psychologie non plus, et les personnages chez Vuillard sont absorbés par le papier peint, par le motif du tapis, par tout ça. Alors que lui, c'est différent, mais je trouve que ça donne la même ambiance un peu anxiogène, si on rentre vraiment dans ces tableaux-là.
Pardon d'insister sur ces personnes qui n'ont rien à voir, mais il y a chez eux tous, dans un moment où la révolution marxiste a lieu, la lutte des classes a lieu, l'industrie s'organise, le monde urbain se développe. Il y a chez tous ces artistes, de Burne-Jones à Vuillard, à lui, à Knopf, etc., un refus du réel. Il y a une réaction absolue.
Mais vous savez qui était le grand homme à l'époque en Europe, dans toute l'Europe, et qui fait vraiment le lien avec tout le monde, c'est Ibsen.
Oui.
Puisque Ligné-Pau montait les pièces d'Ibsen à Paris.
Alors, Ibsen, c'est le plus grand dramaturge, donc. Mais je vous en prie. Donc, et qui a une influence énorme, évidemment, en France, parce que il a été. Il y avait Ligné-Pau qui s'occupait de lui, le théâtre Antoine qui le suivait, et donc avec Maeterlinck, qui était aussi très lié à cette ambiance, il y avait Strindberg, et tout ça a une influence énorme sur le symbolisme européen.
Énorme, et Rilke était dedans aussi, parce que Rilke a fait aussi la jonction avec tout ça, mais simplement, je n'ai pas l'impression que ni Vuillard, ni Amersfoort soient symbolistes, contrairement aux Belges et aux autres, qui eux le sont vraiment. Et là, je ne vois pas vraiment de symbolisme, parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment un sens à leur tableau, alors que chez les symbolistes, il y en a toujours, même s'il est caché... Ouais.
Il y a un questionnement sur cette peinture qui est un peu sans réponse. Je suis très frappé de sa technique aussi. Il a une technique tellement précise. Alors pour le coup, elle me fait vraiment penser à celle de Mondrian. C'est-à-dire que il utilise des petites brosses très sèches, très très fines.
Oui, à l'époque des arbres, en
effet. Il peint avec un refus de l'empattement. Enfin, même sa technique est austère, extrêmement précise, très fine.
Oui, c'est
avec
au bord de la toile.
Voilà,
toujours,
avec ses frottis comme ça, minces, translucides, mais secs. Et c'est un peu, quand on s'approche d'un Mondrian, il y a une vibration dans ces blancs. C'est peint également avec des toutes petites touches très sèches, de presque sans huile. Enfin, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue technique. Et il y a cette même recherche d'une technique resserrée, quoi. Vraiment.
Ouais, mais tu as remarqué aussi que Karl Holze et Isted peignent aussi comme ça.
Oui.
Donc,
voilà,
c'est ce qui complique encore plus.
Voilà, ils sont influencés par leur épigode.
Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de... on voit tout de suite, par rapport aux autres artistes qui travaillent le même sujet, la différence. C'est également le cas quand vous voyez Vermeer au milieu des autres artistes de son époque. Dans l'exposition qui a eu lieu il y a quelque temps au Louvre, à 50 mètres, on voyait sur des mêmes sujets
Caravage et les Caravagesques.
C'est pas méprisant ce que je dis sur les autres.
Non,
c'est simplement qu'il y a une lumière, une distinction.
Vous ne pensez pas que c'est le temps qui fait son... qui fait son travail à ce moment-là, parce que ce qu'on ne voit pas dans notre temps, j'imagine, vous le voyez tout le temps pour l'art contemporain, 50 ans après, tout d'un coup, les choses vous sautent aux yeux et c'est plus difficile de le décider sur le moment, non ?
Oui, c'est vrai, mais il faut voir ces choses-là lentement. On est peut-être un peu imprégné par nos préjugés, je pense qu'on voit ce qu'on cherche, bien entendu. Il faudra qu'on parle d'ailleurs des expositions, parce qu'il y a eu un moment de liberté qui s'est construit un petit peu au Danemark à ce moment-là, c'est autour de comment ça s'appelait
de l'école de Skagen.
Alors, l'école de Skagen, c'était une sorte de phalanstère, en fait, un petit peu comme Pont-Aven qui s'est créé.
C'est-à-dire qu'en fait, les gens de Skagen, pour la plupart, étaient passés par Paris avant. C'est oui. Une école internationale qui s'installe, on a pu même appeler ça l'impressionnisme du Nord.
Si oui. Vous voulez. Mais je pensais plutôt à ces expositions. Ils avaient fait un tour de club, ça s'appelait la Libre, quelque chose comme ça, l'école Libre.
Oui, mais vous voyez ça, ce que je veux dire? Oui, c'est la Undistilling, c'est la libre école qui est faite sur le modèle du Salon des Refusés à Paris, en fait.
En 1890, quoi, 91, ou quelque chose comme ça.
Et ça a été un moment très important pour...
C'est avant 90, parce qu'il y a eu la création d'une espèce de salon qui ressemblait un peu au modèle français.
C'est en fait ce qui s'est passé. Mm-hmm. C'est un peu à cause d'Amersfoort, d'ailleurs, parce que quand il a montré son premier tableau, qui était le portrait de sa sœur, tous les artistes ont trouvé ça extraordinaire, et les critiques ont trouvé ça en disant « Mais pourquoi le mur est nu ? Pourquoi il ne se passe rien ?» Le deuxième tableau, qui est toujours à l'exposition officielle, qui est l'exposition
de l'Académie. En quelle année c'est quand il a 25 ans, 22
80, ans. C'est 89 à peu près. J'ai peur de vous dire une bêtise. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
Mais parce que c'est un tableau de... Oui, ça doit être ça. C'est un tableau de 90, 91 en fait. Donc ça doit être 90, le portrait de sa sœur.
Et tous ses amis artistes, dont John Rhodes, ont décidé de créer une sorte de salon concurrent, comme on avait fait à Paris, pour intégrer justement les tableaux de leurs plus grands peintres, mais qui n'étaient pas acceptés par l'Académie. D'accord. Donc il avait déjà, ça se passe un peu dans tous les pays pareil, c'est que les gens qui sont un peu plus à l'avant-garde
se rassemblent. Voilà. Alors on va reparler du tableau de sa sœur, parce que ça correspond à quelque chose qui nous intéresse beaucoup, mais peut-être avant, écoutons un petit extrait d'un livre de Philippe Delerme, bien connu, publié en 2009. Et il y a une belle prose au sujet des œuvres du peintre danois, un petit morceau de 2009.
Intérieur avec jeune femme vue de dos, 1903, d'Amersfoort. Le battement liquide du balancier de l'horloge monte comme une fièvre. Sous la régularité des lignes et des rythmes, le vide croît vers le vertige, comme si le pas à pas, le geste à geste, conduisait vers un gouffre. Toutes les saisons sont d'hiver. On aimerait savoir le nom d'une vraie tristesse, un deuil ou un départ. Mais on redoute davantage une mort à l'envers, une mort de l'instant, goutte à goutte, perdue sur le parquet glacé. De cette nuque seule, offerte ou préservée, pourrait venir la solution. Mensonge du désir, le sang qui cognerait plus fort au temps, un poison doux, une épingle tomberait sur un coin de tapis, des cheveux électriques. Il faut ranger ce plat en bas du vaisselier. Philippe Delerme, 2009.
Vous écoutez L'art et la matière et nous parlons du grand artiste danois Wilhelm Amersfoort, dont une exposition ouvre dans quelques jours au musée Jacquemart-André, et ceci jusqu'au 22 juillet prochain. Et nous nous y retrouverons, et je suis avec les deux commissaires, Jean-Loup Champion et Pierre Curie, et nous parlons d'un portrait d'Amersfoort, d'un portrait qui a été déterminant, vous le rappeliez Jean-Loup à l'instant, puisque c'est un portrait qui n'a pas eu le succès qu'on pouvait attendre, ou qui a eu un succès mais qui n'a pas mérité la médaille. Et c'est un portrait très particulier parce que c'est sa future femme qu'il peint.
où il peint le portrait de Ida Ilsted, donc la sœur de son camarade d'études, Peter Ilsted. Il l'a peint quand ils sont fiancés. Et on a retrouvé une photo de sa fiancée mise au carreau. Donc on pense en effet que c'est servi de cette photo pour faire le tableau. Mais il y a une bonne raison qu'on imagine, c'est qu'à l'époque, il n'était pas convenable de faire poser sa fiancée dans son atelier.
Parce qu'on est dans une société totalement prude.
Absolument. Donc il a fait prendre cette photo, ou il l'a prise lui-même. Ça, on n'a pas beaucoup de renseignements sur les photos. Il y a beaucoup de photos dans les albums.
Mais de lui, vous pensez parfois ?
On ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Parce que
si
par exemple, pour Munch, on sait que Munch se servit beaucoup de la photo. C'est clair.
Oui, Bonnard et Vuillard aussi, on le sait. Mais lui, on ne sait pas.
Voilà.
On ne sait pas. Mais en tout cas, il est évident qu'à l'époque, il y a très très peu d'artistes qui ne s'intéressent pas à la photo.
Bien entendu, c'est un.
Ça fait partie du médium. Ça n'est pas encore considéré comme un art. Mais c'est quelque chose qui sert aux artistes.
Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais il y a une invention importante à la toute fin du 19e, vers 1900, c'est le petit appareil portable que n'importe qui peut s'acheter. Enfin, c'était assez cher, mais enfin, disons, la bourgeoisie pouvait d'un seul coup avoir accès à la photographie, alors qu'avant,
sans la lourdeur des plaques,
etc. Et ça s'est vraiment développé autour de 1900, cette pratique photographique bourgeoise, en quelque sorte.
Alors, ce portrait que nous regardons, où c'est cette femme qui a les deux mains sur ses genoux, une main un peu plus sombre que l'autre, sa jupe noire que l'on retrouvera ensuite toujours tout au long de sa vie, et qui a ce regard légèrement dans le vide, puisqu'elle est absente.
Il n'y a pas un personnage d'Amershoy qui regarde le spectateur, jamais.
Ce qui est curieux, c'est que le mystère de l'art, me semble-t-il, c'est la question de la présence de l'objet, et comment est-ce qu'on arrive à créer de telles présences avec de telles absences?
Oui, c'est très très étonnant. Et là, c'est la fiancée, ça veut dire qu'elle ne sait pas encore que toute sa vie, elle posera pour son mari.
Un des derniers tableaux qui a été fait d'elle, ou un tableau en tout cas tardif, elle a le dos tourné à l'entrée d'une maison avec une porte en verre, et Amershoy est devant elle, et on a l'impression que le couple n'a là aussi aucune communication.
Oui, alors c'est un autoportrait qui malheureusement ne sera pas dans l'exposition qu'on a espéré jusqu'au bout. C'est vrai qu'il s'est servi de cet autoportrait dans un miroir, résume son art, parce qu'il est devant avec sa palette, et sa femme est derrière lui, et elle est de dos. Donc il se sert, je pense qu'ils étaient très unis, mais sa femme lui sert, fait partie de sa peinture. Je pense qu'il n'aurait pas pu peindre si sa femme n'avait pas été là. Donc c'est une partie complète de sa peinture, on ne peut pas la dissocier, mais il la traite aussi comme un objet dans ses...
C'est la question de la distanciation qu'on a énormément dans le théâtre social de l'époque. Vous parliez d'Ibsen, on l'a tout le temps, cette situation avec des mises en scène où on est extrêmement proche de la scène, on a l'impression d'être dans l'intimité, les personnages se reculent.
Vous avez raison, mais chez lui, le geste est arrêté. C'est-à-dire que dans la plupart des tableaux, c'est arrêté dans le temps, comme ça. Donc on ne sait pas ce que la personne allait faire ou va faire. À deux exceptions près, où on voit Ida Amershoy poser quelque chose sur une table, mais sinon on ne sait pas ce qu'elle fait. Mmh. C'est-à-dire il n'y a pas d'action.
Il n'y a pas d'effet sur la réalité, en fait.
Et donc pas de sujet. C'est vraiment une,
non, Pierre,
une
abstraction des fantômes.
Presque. Enfin, on a la peinture hollandaise du XVIIe siècle a parfois été presque aux confins de cette abstraction de sujet. En tout cas, on a dans de nombreux tableaux une recherche d'une certaine banalité. Si on pense à Vermeer, la dentelière, c'est pas vraiment un sujet, ou la femme qui verse du lait dans un pot sont vraiment des tout petits sujets, de rien du tout. Et Amershoy, quelque part, va encore plus loin et garde juste la figure, sans action, sans rien. C'est vrai qu'il y a une intemporalité incroyable dans sa peinture.
Vous l'expliquez très bien dans le catalogue. Vous dites qu'il n'y a pas de sujet dans la peinture hollandaise de cette époque. Mais en vérité, il y a énormément de détails cryptés qui laissent affleurer un sujet qu'Amershoy, lui, a retiré complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'indice.
Non, parce que aussi nous vivons dans un autre temps que ces grands artistes. Leurs contemporains passaient du temps devant la peinture, donc regardaient longuement les tableaux, analysaient les images, rentraient dans les images. Et je pense aussi qu'au temps d'Hammershøi, ces tableaux se laissaient voir avec du temps et sont assez fascinants pour ça. Aujourd'hui, on zappe très très vite, donc on perd une dimension de la peinture.
Jean-Loup parle de ces personnages retournés qu'on voit dans sa peinture, sa femme souvent, ses proches peut-être. Au fond, on les a aussi chez Friedrich. Avec une proximité de la fenêtre qu'on a quasiment de la même façon. On peut peut-être pas parler d'influence ou de proximité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, il y a un exemple aussi qu'il lui ne connaissait pas. C'est un exemple célèbre pour nous en France. C'est le fameux portrait de cette actrice par Nadar.
Bien sûr.
Où Nadar a d'ailleurs dit que faire une photo d'une actrice, comme une actrice a l'habitude de mentir, il faut la prendre de dos pour essayer d'attraper quelque chose de sa personnalité. Donc là, on peut dire le contraire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la psychologie est dans le dos. Et il y a un tableau qui ressemble beaucoup à la photo de Nadar, c'est le fameux tableau du musée d'Orsay, où sa femme est de dos, avec juste la chevelure, qui est un tableau admirable, et qui est...
Donc elle est appuyée sur une chaise, légèrement balancée vers l'arrière, la chevelure est de dos, mais c'est un tableau plus heureux que les autres.
Oui, et plus sensuel aussi. Oui. Je trouve qu'il dégage quelque chose de très différent, de plus chaleureux.
Et un peu décontracté, en fait. On a l'impression qu'elle est en...
Si je peux parler encore des dos célèbres, il y a les dos de tous les personnages de Munch. Et quand même, Munch, vous pouvez pas me dire que c'est pas proche de lui. C'est à quelques kilomètres. Ils se connaissent peut-être. Ils sont contemporains.
C'est une figure récurrente.
Oui, ils ne se connaissent pas.
Mais ils connaissent la peinture l'un de l'autre, probablement. Ou c'est invraisemblable.
Je ne sais pas. Probablement, mais... Et de toute façon, le Hammershøi a bien caché ce qu'il voyait, parce qu'il n'a jamais mentionné personne, à part Whistler.
Mais alors, puisqu'il ne mentionne personne, on sait quand même ce que voyaient ces artistes danois à l'époque au Danemark. Qu'est-ce qu'on voyait? C'était quoi la scène? Est-ce qu'ils avaient l'information, je parle de ceux qui ne voyageaient pas, de ce qui se passait en Europe? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il y avait beaucoup de... Alors, d'abord, ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, c'était la capitale de tout le Nord. C'est-à-dire, tout le monde venait faire ses études au Danemark, à l'Académie. Y compris les Allemands. C'est-à-dire, Friedrich a fait son éducation de peintre au Danemark.
C'est impossible qu'ils ne connaissent pas
les Friedrich. Norvégiens, non, c'est pas tout à fait, c'est un peu, c'est avant. Oui. Donc, ils se sont pas...
Non, mais ils ne connaissent pas l'œuvre, non, parce que Friedrich
est vers 1820, effectivement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de tableaux de Friedrich...
Mais en tout cas, je dirais que l'influence de Friedrich, elle passe par Johann Christian Dahl, qui est un des
Norvégiens,
qui vit
et qui lui aussi a fait ses études à Copenhague.
À Copenhague, et qui est vraiment un épigone extrêmement proche de Caspar David Friedrich, et qui le suit en quelque sorte dans son parcours.
Et la deuxième, puisque tu parlais très bien de la peinture hollandaise, qui est une des racines d'Hammershøi, l'autre, qui est lié à la Hollande par beaucoup de points, et la peinture qu'on appelait l'âge d'or de la peinture danoise, qui est la peinture de la première moitié du XIXe siècle, avec les grandes figures comme Eckersberg, ou aussi les paysagistes Lundbo et Skovgaard. Et on sait que Hammershøi connaissait tout ça très bien, d'autant plus que c'est l'époque, dans les années 70-80, où les Danois redécouvrent cette période et ont fait les premières expositions rétrospectives des peintres de trois générations auparavant.
Ah oui, en effet.
Donc, ils commencent à découvrir tout cela. Et puis, vous aviez raison aussi, la femme de Gauguin, puisque Gauguin a donc épousé...
Maître Gauguin, bien sûr.
Il a épousé une Danoise. Il est allé au Danemark avec sa femme et ses quatre enfants. Il a laissé tout le monde pour faire la carrière qu'on lui connaît.
Et il y a eu une grande exposition d'art français où Met a participé, plus ou moins.
Oui, et Met vendait, parce que Gauguin, pour la faire vivre et pour faire vivre ses enfants, envoyait des tableaux.
D'ailleurs, je profite pour faire une toute petite incise sur l'exposition que nous avons eue l'année dernière sur la collection Ortrupgaard, la collection de ce couple Hansen, qui achète d'ailleurs leur premier Hammershøi en 1901. Or, Hammershøi a vraisemblablement vu leur collection de peintures françaises, où il y a Gauguin, Degas, les grands français, les impressionnistes qu'on a montrés donc l'année dernière, mais aussi tout un noyau très très important de peinture danoise, et les Hansen vont donc également acquérir des tableaux contemporains et donc un Hammershøi. Et donc il a vu la collection Hansen.
On se rend pas compte à quel point l'information circule et les gens circulent à ce moment-là.
Et les revues et les
revues d'art, et je suis sûr très important
que Hammershøi connaissait tout.
Oui.
Il a tellement voyagé, évidemment, il allait au salon, évidemment. Alors il a simplement prétendu dans une lettre qui n'avait été qu'au Louvre. Mais on sait très bien qu'il allait au salon, à l'exposition universelle, tout ça. Mais c'est sa façon de voir les choses.
Alors, deux choses. Et puis, alors, il y a donc la chose dont vous parliez tout à l'heure de Gauguin. Quand vous dites que Gauguin, que Met est là avec des tableaux, c'est qu'il y a eu cette exposition, il y a quand même 40 tableaux de Gauguin montrés, il y a eu une vingtaine de Van Gogh. Enfin, on est là dans le monde contemporain. Donc, il sait tout et il refuse tout. Pourtant, il y a des Français qui s'intéressent à lui, et puis des internationaux. Vous avez parlé de Rilke tout à l'heure, qui était à ce moment-là peut-être plus proche... plus proche de Balthus. C'est plutôt vers 1908 que Rilke rencontre la maman de Balthus.
Oui, mais c'est qu'il était... Oui, donc... Je pense qu'Hammershøi, c'est avant.
C'est avant, c'est vers 1904,
il voit, 1905. En fait, il voit le tableau dont nous parlions tout à l'heure, sur le tableau d'Ida Ilsted, est présenté à Berlin, chez un marchand, où Rilke le voit. Et Rilke a été fasciné par ce tableau et il a décidé d'aller rencontrer Hammershøi parce qu'il voulait écrire un livre sur son œuvre. Il est allé au Danemark, il est d'abord allé voir sa mère pour voir des tableaux, les grands collectionneurs, et puis après il a rencontré Hammershøi. Manifestement, il n'a pas réussi à lui tirer grand-chose parce qu'il a dit « je n'aurai pas de quoi faire un livre ». Donc il a abandonné le projet d'écrire un livre sur Hammershøi. Ce qui prouve qu'Hammershøi ne se confiait pas. Du tout,
oui. Et alors Rilke donc tombe dans le silence d'Hammershøi, en fait c'est ça.
Ouais.
Et il y a un autre personnage qui a été très important, c'est Théodore Duret. Théodore Duret, grande figure de la critique d'art, si je puis dire, qui avait plusieurs autres vies, puisque c'est un homme politique également.
Ouais. Mais c'est le plus grand critique français de l'époque.
Et qui était l'ami de Durand-Ruel, et donc qui aurait pu faire rentrer Hammershøi chez Durand-Ruel. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont essayé, et Durand-Ruel a montré ce tableau d'Ida Ilsted, mais manifestement, il n'a pas réussi à le vendre. Donc le tableau est retourné au Danemark. Et il y a cette lettre de la mère d'Hammershøi en disant « N'oublie pas d'aller voir M. Duret, n'oublie pas d'aller voir M. Durand-Ruel. » Donc elle le poussait et lui a refusé. Il a dit « Il y est allé une fois ». Il a refusé toutes les invitations à dîner pour rencontrer les autres artistes. Donc ça ne l'intéressait pas.
C'est quand même un personnage étrange. Sa maman doit mourir vers 1914, par là, à peu
elle
près.
Elle est morte à peu près un an avant lui.
Elle a fait toute sa vie un scrapbook, c'est ça, quelque chose comme ça.
Depuis qu'il avait 14 ans, elle a découpé. C'est notre grand document pour
vous travailler. Vous l'avez dans l'exposition?
Non, j'ai mis une photo d'un scrapbook dans le.
Mais en tout cas, on peut le consulter. Enfin, il est consultable.
Oui, ils sont tous. Mais il y en a, je ne sais pas, une quarantaine.
Ah oui.
Qui sont tous conservés à la Hirschsprung Collection à Copenhague.
Et donc, il y a tous les articles,
Il y a les photos et tout cela. Donc, c'est elle, l'historiographe de son fils. Et lui meurt un an.
Après, d'un cancer de la gorge, c'est ça?
Oui.
Voilà, qu'il a beaucoup affaibli à la fin. Et curieusement, je pense au fur et à mesure que sa maman, vous allez dire que je fais encore du freudisme de bas étage, je m'en excuse, au fur et à mesure que sa maman décline, il commence à faire des nus. Et à la fin de sa vie, il commence à y avoir des nus.
Je ne suis pas sûr que sa mère avait décliné quand il a fait ses deux fameux nus, qui sont un peu avant. Qui sont des nus aussi cliniques, si j'ose dire, que ses intérieurs et que ses paysages.
Ils ne sont pas très érotisés, en tout cas.
Pas du tout. On a l'impression que ce sont presque des figures d'hôpital. Et pourtant, là encore, comme pour tous les genres qu'il aborde, il se sert d'une tradition, qui est la tradition qui vient de notre David, qui vient d'Eckersberg, qui a apporté le modèle nu, puisqu'il est dans un pays protestant, le modèle nu n'existait pas. Eckersberg a donné ses premiers cours en faisant venir ses étudiants devant des modèles nus. Et je compare dans le catalogue un modèle nu de d'Eckersberg, de la même grandeur, c'est-à-dire des nus de presque 2 mètres de haut, qui sont beaucoup plus sensuels. C'est-à-dire que lui enlève toute la sensualité.
Mais il ne garde que la lumière, il y a autre chose.
Oui, il y a autre chose, parce qu'on a mis, 3 ou 4 esquisses de nus qu'il a fait 10 ans auparavant. Et les nus, bien qu'ils soient non terminés, sont sensuels. Donc je pense que c'est un choix de la part d'Amershoy, comme pour les autres shows. Il a choisi d'éliminer le grain de la peau, d'éliminer la sensualité, d'éliminer tout ce qu'un nu peut
Est-ce que vous ne dites pas pourtant qu'à un moment donné, même les poils de pubis apparaissent
dans les esquisses? Non, oui, mais ça pour... Oui, tout le temps, dans tous ces...
Donc il va très loin dans la précision, et pourtant, oui. Il n'y a aucune, c'est vrai, aucune sensualité.
Non, c'est très
Pierre,
froid.
Il semblerait que là, ces derniers nus, justement, l'aient épuisé.
En tout cas, ce qui est remarquable, et là Jean-Loup vient de le dire, c'est que il a enlevé tout.
Il en a fait deux.
Et puis, hein. Il en a fait que deux. C'est vraiment une part infime de sa production. C'est ses choix comme ça, extrêmement resserrés. Je ne sais pas si ça l'a épuisé. On a du reste pas vraiment de détails sur la
fin. Si, c'est ce que son premier biographe, Alfred Branson, qui était son plus grand collectionneur, a écrit. Ouais. En disant, ces deux nus l'ont épuisé et il n'en a plus jamais fait.
Parce que là, on est tout à la fin.
C'est des grands formats. Enfin, il y a un grand. Oui,
c'est deux grands formats. Grand format, on en a un sur deux. En fait, il n'a fait que deux nus.
Ouais.
On a des esquisses,
Parce qu'il faut que nos auditeurs le comprennent. On parle d'un artiste dont on a 400 tableaux. C'est-à-dire assez peu si on compare ça aux grandes carrières de Lacroix.
Il est mort à 51 ans.
Oui.
Oui, il est mort.
Enfin, 51 ans.
Et puis, il travaillait très lentement.
Oui, c'est ça. Il semblerait que ça soit très, très laborieux.
Oui, et par exemple, en 1915, l'année précédente, il n'a pas qu'un tableau.
Alors, c'est extraordinaire parce qu'on travaille très lentement pour peindre presque rien. Ça m'intéresse, c'est de voir ce choix minimal, en fait. C'est ce minimalisme extraordinaire.
Il y a plusieurs choses étonnantes dans sa vie. Par exemple, moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de la mer, M-E-R. Alors que Copenhague est une île.
Il y a un paysage avec un petit bout de mer.
À peine.
Qui est là, mais ça ne l'intéresse pas. Mais quand vous parliez de lenteur, vous aviez parlé tout à l'heure de Balthus. Ça me fait penser au rythme des peintures de Balthus.
Oui, mais Balthus faisait une prière avant chaque tableau, ça prenait du temps, et parfois c'était une demi-journée.
Il faisait très... Vous savez, les tableaux de la fin, pas de la toute fin, parce que là, il y a d'autres problèmes qui se posent pour Balthus, mais...
On verra ça une autre fois, ça, les
disons, la chambre turque, par exemple, bien sûr. Qu'il a mis très très longtemps à peindre ce tableau extraordinaire, un tableau de la fin.
En effet.
Qui est au Centre Pompidou.
Donc c'est...
Mais c'est là où on rejoint quelque part Whistler, c'est-à-dire que tout ça a l'air très simple, mais en fait il y met toute sa vie, il y met sa personnalité entière dans ce presque rien. Et donc il y a un investissement personnel, si je puis dire.
Non, puis il y a une qualité de surface.
Qui est
et puis une force de caractère, parce qu'il a quand même résisté. C'est quand même arrivé à Paris dans ces années-là où vous aviez des artistes du monde entier qui travaillaient ensemble.
C'était l'épicentre mondial de la transformation esthétique.
Oui, et vous avez son contraire absolu, qui est Picasso, qui lui est une éponge absolue.
Il
change tout ce qu'il trouve.
Il change tout le temps.
Et puis il en fait sa propre œuvre, bien entendu. C'est le contraire.
Merci infiniment Jean-Loup, merci Pierre pour cette exposition fascinante et ce personnage fascinant que vous faites ressortir devant nous. Merci à tous les deux.
Merci
beaucoup.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Jean-Louis Champion et Pierre Curie pour parler de l'exposition Amershoy, le maître de la peinture danoise. Une exposition lumineuse qui a lieu au musée Jacquemin-André jusqu'au 22 juillet prochain. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, Catherine Boguet. Une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation, évidemment, Franck Lilin. La semaine prochaine, nous parlerons d'un artiste que vous connaissez tous, mais nous parlerons en fait de Caravage, bien sûr, mais nous parlerons aussi de Delacroix et nous parlerons peut-être d'une autre surprise parce que ce sera le Salon du Livre et nous avons trois auteurs au Salon du Livre pour savoir comment est-ce qu'on fait pour écrire différemment dans des genres différents autour d'un artiste. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre. Et dans quelques instants, Personnages en personne, par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.